Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse-et-Corso. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute.
La résurrection de Jésus-Christ. L'événement le plus important dans toute l'histoire de l'humanité. Et comme tout événement important, c'est un événement qui a suscité beaucoup de discussions, beaucoup de controverses, mais aussi, comme vous l'avez déjà vu, des fake news. Alors, une petite explication pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une fake news. Ce sont des fausses informations qui circulent et qui trompent le public. C'est une expression qui est venue très à la mode, notamment pendant l'élection présidentielle américaine de 2016. On a beaucoup parlé des fake news. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de trois fake news, de trois fausses informations qui circulent sur la résurrection de Jésus. Mais surtout, de nous souvenir de ce que le message biblique a à nous dire sur le sujet. Et on peut double-cliquer ça. Trois fake news sur la résurrection de Jésus. La première fake news qui nous intéresse, c'est que la résurrection de Jésus n'est pas réelle, mais qu'elle est symbolique. Et c'est vrai que certains qui ont du mal à croire que Jésus est vraiment ressuscité, peut-être pour faire passer la pilule un peu mieux, disent que c'est pas lui qui est ressuscité. Ce qui est ressuscité au matin de Pâques, c'est la foi et l'espérance des disciples. Mais la résurrection de Jésus dans son corps, ça, c'est pas un événement qui est vraiment arrivé dans l'histoire. D'autres disent que la résurrection est arrivée, mais qu'elle est uniquement spirituelle. Jésus est ressuscité peut-être dans le regard, dans la tête et dans le cœur des disciples, mais son corps, lui, continue de se décomposer tranquillement dans le tombeau. Alors c'est bien joli, mais le problème, c'est que ça ne correspond pas à ce que les premiers disciples, à ce que les auteurs de la Bible, à ce que les témoins de l'époque ont cru et ont vu. Si les premiers disciples ont été prêts à partager le message de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus jusqu'au bout du monde, à supporter l'opposition, à supporter les moqueries, à supporter même de mourir en martyr pour certains, c'est pas juste parce qu'ils croyaient en un symbole, c'est parce qu'ils avaient vu, ils avaient parlé, ils avaient touché, ils avaient mangé avec le ressuscité. Et c'est ça qui leur a donné la conviction d'aller jusqu'au bout de leur témoignage. Et cette réalité nous apprend quelque chose de fondamental sur Dieu. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a tendance à raconter des anecdotes un peu difficiles à croire. Je suis sûr qu'on connaît tous quelqu'un, on se dit il est un peu marseillais sur les bords, il a tendance à, voilà, il raconte des choses... Il aime bien embellir la vérité. Ou on connaît peut-être quelqu'un qui fait des grandes promesses, mais qui paraissent difficiles à tenir. Imaginez cette personne. Eh bien, le jour où vous vous rendez compte que son affirmation la plus extravagante, la plus folle, la plus insensée, la plus difficile à croire est vraie, eh bien, peut-être que vous commencez à réfléchir sur tout le reste de ce qu'il vous a dit. Ah, c'est peut-être un peu crédible finalement. Il n'est peut-être pas si fou. Jésus a dit beaucoup de choses incroyables, étonnantes, difficiles à croire. Mais de toutes ces choses, la plus folle, ça a été de prédire sa résurrection. Alors, quand c'est arrivé, ses disciples se sont dit, ben, ça veut dire que tout le reste de ce qu'il a dit, c'était pas si fou. C'était crédible. Puisque la résurrection de Jésus est arrivée, alors qu'il l'avait annoncée, ça veut dire que le reste est vrai aussi. La résurrection, c'est l'événement qui nous montre que Jésus est vraiment celui qu'il prétend être. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il est vraiment le chemin vers le Père. Il est vraiment la vérité. Et tout ce qu'il a dit sur Dieu, son Père, est digne de confiance. La résurrection de Jésus est réelle, contrairement à certaines fake news qu'on peut entendre. Mais est-ce qu'elle est si importante que ça? Parce qu'il y a une deuxième fake news. La résurrection de Jésus est une question secondaire. n'est pas une priorité dans la foi chrétienne. J'aimerais vous poser une question. Comment est-ce que vous savez que vous avez vraiment compris quelque chose? Un bon test pour savoir si on a vraiment compris quelque chose, c'est de savoir si on peut l'expliquer en une phrase, simplement. Pour moi, c'est un bon test. Et j'aime les personnes qui ont un esprit synthétique, qui sont capables de résumer des choses compliquées en une phrase ou en quelques mots. Et donc j'aime les versets qui résument des grandes vérités en quelques lignes. Et le passage biblique de Corinthiens qui nous a été lu est comme ça. Il résume tout l'évangile en une phrase. Mais remarquez comment l'auteur de ce passage, l'apôtre Paul, insiste sur l'exactitude des termes. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Et là, il dit quelque chose de dur. Autrement, votre foi aurait été inutile. Pourquoi l'apôtre Paul insiste-t-il autant sur l'exactitude des termes employés? C'est pas seulement parce que Paul est psychorigide. Mais c'est que Paul a compris le danger du téléphone arabe. Il sait que le message de l'évangile est vite déformé. Et un message déformé perd son sens et perd sa puissance. Je suis retombé sur une anecdote récemment, une histoire qui arrivait à ce grand auteur américain que certains d'entre vous connaissent, Mark Twain, un grand auteur américain du 19e siècle. À un moment, il était parti de son pays pour aller vivre à Londres. Et à ce moment-là, dans cette période, son cousin était tombé gravement malade. Et des rumeurs se sont répandues comme quoi ce n'était pas le cousin de Mark Twain qui était malade, mais c'était lui. Et la rumeur de sa maladie et même de sa mort est parvenue aux États-Unis. Et en réponse à cette rumeur, il avait écrit un journaliste en disant « J'ai appris de sources sûres que je suis mort, mais je dois vous dire, la nouvelle de mon décès est une exagération. » Des histoires comme ça, il y en a des milliers. Nous, les êtres humains, nous avons tendance à déformer des réalités jusqu'à ce qu'elles perdent leur sens. Voilà pourquoi Paul dit « Retenez la bonne nouvelle dans les termes où je vous l'ai annoncé. » Alors si on devait résumer la bonne nouvelle, si on devait compléter ces versets, si on devait la résumer en une phrase, peut-être que certains d'entre nous diraient « La bonne nouvelle, c'est que Dieu existe. » C'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas assez précis. D'autres qui ne croient pas dans le Christ pourraient dire « Dieu existe ». Alors on pourrait être un peu plus précis, on pourrait dire « La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. » Ah ça c'est bien, mais ce n'est pas assez précis. D'autres qui ne croient pas dans le Christ pourraient dire que Dieu nous aime. Ces deux affirmations sont importantes, mais ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, Paul nous la résume en une phrase. « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés. » Conformément aux Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. J'aime cet esprit de synthèse. Voilà tout l'Évangile résumé en une phrase. Comment Dieu nous montre-t-il qu'il nous aime vraiment? Christ est mort pour nous. Comment Dieu nous montre-t-il qu'il existe? Il a ressuscité Jésus d'entre les morts et il a accompli ses promesses qui sont contenues dans les Écritures. Ça veut dire que la résurrection de Jésus, c'est au cœur de l'évangile, c'est au cœur de la bonne nouvelle. Ce n'est pas secondaire ou tertiaire. Ce qu'on croit de la résurrection de Jésus, ce qu'on croit au sujet de la résurrection, détermine si on a le même évangile, la même foi, la même bonne nouvelle que les premiers chrétiens, que les auteurs du Nouveau Testament, que les disciples qui ont suivi Jésus. La résurrection de Jésus est au cœur de l'évangile et de la foi. Mais qu'est-ce que ça change pour moi et qu'est-ce que ça change pour vous? Il faut qu'on en parle car une troisième fake news circule. La résurrection de Jésus ne me concerne pas personnellement. Il y a quelques années, j'ai entendu quelqu'un me dire « Tu sais, ce qui est arrivé il y a 2000 ans à un type dans un coin paumé du Moyen-Orient, qu'est-ce que ça change à ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça change à ma vie? Et c'est vrai que c'est la meilleure des questions. Qu'est-ce que ça change à ma vie? Parce qu'on comprend que ça a été une bonne nouvelle pour les disciples qu'il soit ressuscité. A priori, ils l'aimaient bien, ils ont passé 3 ans avec lui, il revient. C'est super. Mais pour nous, 2000 ans après, qu'est-ce que ça change dans nos vies? Eh bien, ça change tout. Et j'aimerais vous partager 2 conséquences de la résurrection de Jésus-Christ pour nos vies aujourd'hui. Dans l'Épître aux Philippiens, il est dit « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » La première conséquence de la résurrection de Jésus-Christ, c'est qu'elle annonce la résurrection de nos propres corps. Et peut-être que c'est une idée avec laquelle on n'est pas toujours très à l'aise. Parce que pendant des siècles, sous l'influence de différents courants de pensée grecque, les chrétiens ont dénigré le corps, en l'opposant à l'esprit, par exemple. Il y a eu beaucoup de discours qui ont dit « le corps est mauvais, le corps est sale, le corps n'est pas important ». Ce qui compte pour Dieu, c'est la vie spirituelle, c'est la vie intérieure. Mais l'espérance des premiers disciples, l'espérance des auteurs de la Bible, c'est que comme Jésus est ressuscité dans son corps, alors tous ceux qui croient en lui ressusciteront aussi dans leur corps. Comme le dit l'apôtre, il transformera nos corps de misère en corps glorieux. C'est pour ça que la Bible, je crois, parle autant des choses très concrètes de la vie. Il y a quelque temps, on avait fait une série sur la nourriture. Et on avait parlé de ce que la Bible dit de la nourriture. Et on aurait pu faire des tas et des tas de cultes là-dessus. C'est pour ça que la Bible parle autant de sexualité. Dieu est intéressé par nos corps. Il est préoccupé par tout ce que l'on vit, toutes les dimensions de nos êtres. Et ce que nous vivons dans nos corps le concerne. Nous ne sommes pas juste des esprits ou des âmes. Et ça veut dire que l'espérance chrétienne, pour nous, c'est qu'un jour, nos corps seront ressuscités. La deuxième conséquence, c'est que notre Dieu est plus puissant que le plus puissant des ennemis, qui est la mort. Vous connaissez peut-être cette phrase de Benjamin Franklin qui dit « En ce monde, rien n'est certain, sauf 2 choses, la mort et les impôts. » Alors, je trouve qu'il est un peu naïf parce que les impôts, il y a pas mal de petits malins qui arrivent quand même à les éviter. Mais la mort, c'est la seule chose que personne n'a jamais évitée. Mais par contre, un homme l'a vaincu, Jésus-Christ. Et si Dieu en Jésus-Christ a vaincu l'ennemi le plus terrible, l'ennemi devant lequel tout le monde a rendu les armes, alors ça veut dire que rien n'est trop grand, rien n'est trop dur pour lui. Ceux qui ont l'espérance de la résurrection ne vivent donc pas de la même manière les moments d'épreuve, les moments de difficulté, les moments de douleur ou les moments d'échec. J'ai vu des gens affronter les épreuves les plus terribles avec une paix extraordinaire parce qu'ils avaient l'espérance de la résurrection. Ils savaient que leur vie actuelle n'était pas la fin, mais qu'un jour ils ressusciteraient pour une vie plus belle, parfaite dans la présence du Christ. Et ceux qui ont l'espérance de la résurrection vivent aussi différemment le succès, les joies, les réussites, les moments où tout va bien. Ils ne se laissent pas emporter par l'orgueil ou la vanité, ils ne se laissent pas emporter par un amour immodéré des plaisirs, car ils savent que tout ça n'est que temporaire et que le vrai trésor est dans l'autre vie. Alors l'espérance de la résurrection nous donne une nouvelle perspective et une nouvelle façon de vivre. Tout ne s'arrête pas là, tout ne s'arrête pas dans cette vie, les amis. Tout ne s'arrêtera pas à ma mort, tout ne s'arrêtera pas à la mort de mes proches. Une autre vie, plus longue, parce que l'éternité c'est long, surtout vers la fin, une autre vie plus longue et plus précieuse nous attend pour ceux qui croient dans le Christ et dans sa résurrection. La résurrection du Christ nous donne pour aujourd'hui une nouvelle espérance, une joie qui ne dépend pas des circonstances et une nouvelle façon de vivre. Alors, j'aimerais finir en vous encourageant plutôt que de donner du crédit aux fake news, croyez dans la vraie bonne nouvelle. Jésus est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément à ce que Dieu avait promis dans les Écritures. Que cette bonne nouvelle produise en vous et en moi une joie, une espérance qui fasse la différence dans toutes les circonstances de nos vies. Et en relisant cette bonne nouvelle, je ne peux pas m'empêcher de penser à quelque chose qu'avec ma femme, on essaye d'apprendre à notre fille de 2 ans. Quand elle a un jouet, quand elle a un morceau de gâteau, on essaye de lui apprendre à partager. Et une bonne nouvelle, c'est comme un bon morceau de gâteau. Ça se partage. Alors partageons la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Que nos vies, nos attitudes et nos paroles disent à tous ceux qui sont autour de nous, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen.
Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corzecorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt.